Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêts à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Bon, qui c'est qu'on a avec nous aujourd'hui, Oli?
Ah, des invités de marque?
C'est deux invités pas invités, en fait.
Mm-hmm.
Fait qu'on va commencer ça facilement avec, un pilier du Pharmascope, Madame Hébert.
Salut!
Comment ça va, Isa?
Ça va bien, ça va bien.
Est-ce qu'on dirait que c'est aujourd'hui la fin de la fin, Isa?
C'est aujourd'hui la fin de la fin, oui.
Je suis pas bien avec ça.
Ben
je sais pas quoi dire.
En même temps, c'est ça, il est comme 9h le soir, puis là, je me dis, c'est mon dernier enregistrement de soir.
Tu te sens comme une femme libérée, là, hein?
Ben non, là, je pense que femme libérée, c'est trop fort, là. J'ai quand même un peu de tristesse, là, ouais.
Bon, fait que t'as accepté de venir une dernière fois pour faire l'épisode gala des Grands Crus et des Piquettes.
On vient, je viens clôturer l'année avec vous.
C'est notre 7e ou 8e gala?
Je pourrais pas dire personnellement, mais...
Je pense que ce serait le 8e.
Ben non, c'est sûr, Oli, t'étais pas là, t'étais quoi, en 5e année probablement à l'époque? Chose comme ça. Ou en train de faire une maîtrise en philosophie, c'est selon.
en effet.
La fin, mais hein, comme quelqu'un de célèbre l'a sûrement dit un jour... La fin de quelque chose est aussi le début de quelque chose d'autre. T'as appris ça, j'imagine,
exactement.
Dans ta maîtrise.
Hein? J'allais dire, Nico, c'est toi qui fais de la philo, là.
Hein? Hein? Mais c'est parce qu'à force de...
Grassage à tes heures.
Mes heures n'arrivent pas souvent, là, mais... aïe, aïe, aïe. Et donc, le début, l'arrivée officielle d'Amé.
Salut! Hey, je pensais que tu m'avais oublié. Moi, je commençais à me dire, je suis dans la conversation.
Ben non, t'as pas oublié, donc... Amé, peut-être pour une dernière fois dans les règles de l'art, si tu veux prendre une petite seconde pour te présenter.
Oui, alors je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur dans le CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Et donc, Amé, tu vas remplacer officiellement Isa au Pharmascope.
Oui, j'ai des grandes chaussures à chausser.
Des 7.
Ouais. C'est ça. Fait que Isa, veux-tu nous redire déjà pourquoi tu nous quittes?
Parce que j'ai accepté un poste à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec où je vais être directrice adjointe à la formation professionnelle.
Fait que, on est évidemment là, très content et très pas content de tout ça. Je sais pas comment... Oli, c'est le temps, là, la maîtrise en philo, il faudrait qu'elle se passe, là, je pense. Là.
Donc, ce sont de drôles de sentiments, un mélange de joie et de tristesse...
Tu vois, il a dit la même chose que moi, mais genre de façon plus éloquente.
Ouais, j'ai essayé de prendre une voix un peu plus solennelle aussi. Ouais, je sais pas si ça a marché. Là.
Bon, on va pas passer une demi-heure à se morfondre, j'imagine.
on a un épisode à faire.
Fait que malgré tout, on a un gala des Grands Crus et des Piquettes à faire. Donc, si c'est votre premier gala, c'est vos attentes. Là. C'est différent comme épisode. Ça se veut ludique. Là. C'est moins sérieux. C'est moins sérieux, je vous le confirme. C'est voulu, hein? C'est festif.
Il me semble qu'on est parti sur un beat un peu mélodramatique là, pour quelque chose qui se veut festif.
T'as raison. OK, on change ça. Partons ça tout de suite avec une catégorie classique dans ce cas-là. La catégorie grand cru et ou piquette du meilleur pire nom de médicament. Et encore une fois, cette année, quelle compétition terrible! Dans tous les sens du terme. Hein? On se rappelle cette fameuse partie de Scrabble international que se jouent les compagnies pharmaceutiques. Et ils se sont donnés. Ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. On se rappelle l'Imvexi, n'est-ce pas, Amé? Avec ses deux X suivis d'un Y pour finir ça vraiment en force.
Ouais. Donc, Imvexi, moi, c'est mon top 2025. Là.
Toi, Ali, je pense que tu avais voté plus pour le pire, hein?
Ben, le pire, honnêtement, ça fera bientôt un épisode, genre un club de lecture, là, mais le médicament, c'est l'orforglipron. Honnêtement, je on dirait que je suis pas capable de le prononcer sans lire le nom du médicament. C'est généralement pas bon signe.
Il y a trop d'air, on va se le dire, trop d'air. Vraiment moins bon, Scrabble? Ils ont pas compris, en fait, les règles, eux autres, là, mais difficile. Dans les autres finalistes, il y en a des plus cute quand même. J'aime bien un nouveau stérilet qui s'appelle Ballerine.
Ouais, ça, c'est bon.
Sinon, dans la catégorie Scrabble international, il y en a un nouveau aussi, là, le Lascluze. Et donc, oui, dans un mot de 8 lettres, on a 2 Z. Mm.
Tu sais qu'il y a juste un Z hein, dans le jeu de Scrabble.
C'est vrai?
Ça fonctionnerait pas. Hey, ouais.
T'imagines? Oh, ça veut dire qu'eux, ils ont dépassé le jeu. C'est. Wow. Sinon, il y en a quand même, faut le donner. Il y en a aussi qui coulent mieux en bouche. Là, j'aime bien dans la dernière année le Yesafili.
Ouais.
Je trouve que ça me donne l'impression d'un restaurant bon marché.
On dirait que ça dépend comment tu le prononces, quelle intonation tu donnes.
Tu vois, lui, il vient avec une intonation, je trouve un accent, tu le dis vite. je pense pas que tu peux le dire lentement. Tu sais, il y a personne qui lit ça et qui se dit « Yes, Philly ». Tu sais, ça se dit vite. « Yes, Philly ». Il y a quelque chose là-dedans. Sinon, j'avoue que mon coup de cœur, moi, cette année, c'est le « Doptelette ». Puis là, bon, j'imagine que ça ne vous dit pas grand-chose, le Doptelette, parce que c'est quand même assez niché comme médicament. Là. C'est une affaire de stimulation de la production de plaquettes. Là.
Mmh. Oh,
mais tu sais, hein? Fait que oui, un stimulant de plaquettes, le Doptelette.
Ouais.
C'est beau. Je trouve que c'est beau. Grosse compétition. Sinon, une autre classique, la catégorie meilleur nouveau médicament. Je pense que vous avez de gagnant cette année. Les votes ont été serrés. Parmi les finalistes, on a les antibiotiques pour la vaginose chez le partenaire masculin d'un couple. Mm-hmm. Vous vous souvenez de ça, hein? Je pense que c'était toi, ouais. Isaac, qui avait traité de cette étude parue dans le New England au fin de l'hiver, début du printemps dernier,
mm-hmm.
qui avait été cessée même prématurément parce que trop efficace pour prévenir les récurrences de vaginose bactérienne chez la femme lorsqu'on traitait, en plus de la femme, aussi l'homme, avec une combinaison de métronidazole oral et de clindamycine topique.
Exactement. Puis c'était, ce qui était nouveau dans cette étude, c'était la clindamycine topique, parce que ça avait déjà été testé avec la médication orale, puis ça ne fonctionnait pas.
Exact. Une étude qui était parue en 2021, dont on a traité dans un épisode antérieur, qui avait quand même, on se le rappelle, fait de quoi d'incroyable, jamais refait à ma connaissance depuis. Seule étude randomisée contrôlée à ma connaissance de l'histoire, ou pour confirmer que les gens étaient vraiment en couple ensemble, on leur avait fait faire un petit questionnaire là, du genre on assoit les deux dos à dos dans un mariage puis on te demande des questions coquines. Là.
Ça, c'est vraiment bon.
C'est quand même très vraiment fort. Bon. Cette fois-ci, dans une lune, ils n'ont pas fait ça. Ça, c'était un peu décevant.
Il demandait si le partenaire avait des tatous et des questions de même. Hein? Ouais.
Pour être sûr qu'ils ne mentent pas sur le fait qu'ils étaient un couple. Tout ça, moi,
aïe, aïe, aïe.
Bien impressionné. Mais, fait que, bref, traitement chez l'homme qui a fonctionné, ma foi, de façon très, très, très impressionnante. Fait que c'est pas un nouveau médicament, évidemment, là, la clindamycine topique et ou le métronidazole oral, mais une nouvelle utilisation, ma foi, tout à fait pertinente. C'est notre gagnant, vous pensez?
Ben moi, j'ai eu un petit coup de cœur là, pour le Rebiota.
Le Rebiota. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rebiota, on en a parlé rapidement dans un épisode il y a quelques mois. C'est le fameux produit à base de sel.
De sel.
Pas sel, S-E-L, genre salez-vous beaucoup votre nourriture, là. Les autres sels. Puis pour le traitement et la prévention des récurrences d'infections assez difficiles. Puis, ben, j'imagine, Amé, ce qui t'a fasciné là-dedans, c'est comme moi. C'est pas tant le produit, puis les études, puis la science sur tout ça, là. C'est plus le fait que ça veut dire que maintenant, il y a une job qui existe qui est donneur de sel.
Oui, ben, on en avait parlé, là, dans l'épisode, justement, où j'avais été invitée, là. Fait que, oui, il y a effectivement des gens qui sont donneurs de sel.
Je sais pas si c'est payant, mais le truc, il coûte cher quand même pas mal, là. Fait que je sais pas quelle proportion de ça se rend au donneur original, là, mais. Il y a un potentiel ici, là.
Pour arrondir les fins de mois.
Exact. Aïe, aïe, aïe. Sinon, moi, dans les finalistes que j'avais sortis, il y avait aussi le Journey PM. Ce nouveau produit à base de méthylphénidate qui est indiqué dans le traitement du TDAH, mais qui est pris le soir, avec une libération retardée qui permet un contrôle d'emblée de tes symptômes lorsque tu te réveilles. Puis ça, hein, je pense que c'était une demande qu'il y avait, là. Je sais pas. Mais bon. Fait quoi, ben, tu sais, faut le dire, hein. Je pense que là, on rigole, mais c'est sûr. C'est... À un moment donné, tu sais, plus il y a de médicaments disponibles, probablement plus que c'est donc de facto difficile d'en découvrir des nouveaux qui apportent vraiment de quoi d'important. Fait qu'on comprend. On comprend qu'à un moment donné, reste-moi une place à l'innovation. Je sais pas. Mais bref, plein de nouveautés encore cette année, avec chacune leurs forces et leurs faiblesses. Prochaine catégorie. Une catégorie qu'on essaye de faire disparaître à chaque année. En fait, on a littéralement dû inventer la catégorie, là, maintenant, cette année. Fait qu'on a arrêté d'essayer de l'intégrer dans une catégorie XYZ. On a juste décidé que c'était officiel maintenant. De facto, il y avait la catégorie vitamine D.
Ben, à tout le moins pour cette année. On verra les autres années, mais on ne pourra pas dire qu'on ne suit pas les commentaires des gens qui nous écrivent parce qu'on a reçu au Pharmascope un commentaire d'un de nos éditeurs qui nous recommandait de parler plus souvent de vitamine D. Donc voilà, on en parle dans notre gala. Puis on en avait parlé aussi dans le gala de l'année passée, si je me souviens bien.
Ben, puis dans le gala de l'année d'avant, puis dans le gala de l'année d'avant.
Là, je n'étais pas là, ces autres galas-là, mais c'est quand même un sujet trendy. Là. C'est à la mode, la vitamine D.
Oh, seulement. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé avec la vitamine D cette année?
Ouais, donc j'ai fait un petit tour d'horizon des publications 2025 dans le monde de la vitamine D. Puis savez-vous quoi? On a quand même environ 100 études randomisées contrôlées portant sur la vitamine D juste cette année. Donc ça en fait pas mal, hein, des études. C'est majoritairement évidemment des petites études. Ça porte souvent sur des issues intermédiaires, cliniquement incertaines, mais bon, il y a un paquet d'études. Puis quand on regarde les sujets qui sont couverts, ça va vraiment dans tous les sens, là. On a des études pour prévenir les cancers, favoriser l'intégration des implants dentaires, améliorer les symptômes de Parkinson. Tu t'étudies aussi en diabète, en douleur, pour la polyarthrite rhumatoïde, pour le traitement de l'obésité, pour l'arthrose du genou, pour le risque cardiovasculaire, pour la dépression, pour diminuer le risque suicidaire aussi dans une étude.
Puis là, ça a été efficace dans tout ça, là?
Ben là, je vais vous faire une confidence. J'ai pas lu les 100 études, mais avec un petit échantillon, à date, ça allait pas dans le bon sens pour la vitamine D.
Ah, oh, qui l'eût cru?
Point, point, point.
Et voilà. Sinon, pour notre gala, j'ai décidé de parler un petit peu d'une étude, du programme de recherche FIND qui a tenté d'évaluer si la prise de vitamine D diminuait le risque de développer un trouble neurocognitif. Puis bon,
ben,
je pratique en GMF, mais je pratique en gériatrie aussi. Donc, je me suis dit, hey, ça serait-tu pas merveilleux, une petite vitamine pour prévenir les cas de TNC. Puis à la base, l'étude FIND, c'est un gros programme de recherche qui vise à donner de la vitamine D à plein de patients. C'est une étude randomisée contrôlée. Puis on mesure un paquet d'issues. Là. À la base, les issues primaires, c'était les maladies cardiovasculaires puis la mortalité, mais ils ont récolté des données sur plein d'issues différentes à travers les années, là, notamment sur la survenue de troubles neurocognitifs. Donc, on a ici une étude randomisée contrôlée de 2500 patients qui évalue la vitamine D à la dose de 3200 unités une fois par jour contre 1600 unités une fois par jour contre placebo pour une durée d'environ 5 ans.
Peut-être un petit point sur ce que tu as dit avant, là, parce que c'est bien connu. Une bonne façon de faire une étude randomisée contrôlée sur un produit, c'est de la faire puis de mesurer une panoplie de cossins, puis voir s'il n'y a pas un parmi tous ces cossins-là qui marche.
Exact. Parce qu'évidemment, plus on multiplie des tests statistiques sur des issues différentes, plus on a de chances qu'un de nos tests, à un moment donné, par chance, démontre des résultats qui vont être statistiquement différents. Mais après, il y a toujours aussi, est-ce que c'est cliniquement différent, puis est-ce que c'est juste un effet de la chance? Parce qu'on répète un test statistique énormément de fois, ben par chance, on va trouver des choses.
Mm-hmm.
Quand on regarde, en fait, les résultats dans cette population-là, qui est une population âgée, surtout entre 65 et 75 ans, qui avait, somme toute, peu de comorbidité, quand on regarde les cas de TNCM à la fin des 5 ans, 2,2% dans le groupe placebo, 1,7% dans le groupe 1600 unités et 1,6% dans le groupe 3200 unités. Ce n'était pas des résultats qui étaient statistiquement significatifs. Puis, évidemment, les auteurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont essayé de faire un petit peu de sorcellerie. Ils ont fait plein d'analyses post-hoc qui étaient non prévues au protocole en excluant un paquet de patients pour tenter de voir si la vitamine D était vraiment efficace. Puis à la fin de toutes ces analyses-là, ben, ils ont encore conclu que la vitamine D, ça prévenait pas les troubles cognitifs, malheureusement. Oups! Alors voilà notre catégorie vitamine D de cette année.
Non, mais un moment donné, là, on va en pogner une. Vous le dites, moi.
J'espère, là.
Je veux dire, à force de faire 100 études randomisées contrôlées à chaque année, là, à un moment donné, on va pogner quelque chose. Là.
Mais c'est fascinant, hein, comment on s'acharne à essayer de trouver un bénéfice.
Je sais pas. Je veux dire, j'ai rien, tu sais, c'est toujours pareil. Là. Je pense pas que personne ici a quelque chose contre la vitamine D. Ce serait bien le fun si ça marchait pour quelque chose. C'est juste que, comme tu dis, Ami, il y a un acharnement que je sais pas pourquoi. Prochaine catégorie, la fameuse catégorie étude simple mais intéressante. Cette année, le grand gagnant, l'étude Yawns. Parce que oui, une étude qui porte sur le dodo, une étude canadienne, ouverte, randomisée, contrôlée. On a fait, ma foi, quelque chose de fascinant. Là. On a évalué l'utilisation d'outils postaux chez quelques centaines d'utilisateurs chroniques de benzodiazépines de 65 ans et plus. Étude canadienne, quand même. Hein? Faut le souligner. Puis ce qu'on a fait, c'est très simple. Fait qu'on a pris des utilisateurs chroniques de benzo. Au final, on en a inclus 565 d'un âge moyen de 72 ans qui prenaient des benzo en moyenne depuis 11 ans. Fait qu'on parle de gens qui en prenaient depuis un bout de temps. Puis là, on les a randomisés dans trois groupes. Soit recevoir par la poste des dépliants provenant du site web sleepwell.ca, qui inclut là, un paquet d'informations sur comment mieux dormir sans la médication, comment se séparer de ses pilules, puis tout ça. Dans le deuxième groupe, des dépliants de l'étude Empower. Je ne sais pas si tu te viens, Isa, de ça, à nos débuts de pratique ensemble. À un moment donné, tu m'avais amené un dépliant de cette étude-là. Fait que c'est une étude qui avait lieu notamment dans des pharmacies québécoises. Puis là, il y avait un paquet de médicaments qui sont considérés comme potentiellement inappropriés pour la personne âgée. Puis dans certaines pharmacies, on remettait des dépliants qui faisaient peur un peu. Là. Il y avait comme une espèce de gros titre, là, « Vous êtes à risque ».
Oui, puis, oui, c'est un patient qui me l'avait amené.
Exact, je me souviens de ça, je ne sais pas pourquoi. Là. Toi, c'était la sulfonylurée à l'époque, si je me rappelle bien. Puis là, le patient arrivait chez le médecin, il était comme là, ils m'ont donné ça à la pharmacie, apparemment, je suis à risque. Je
sais pas, et c'est de votre faute.
Je trouvais ça quand même spécial, là, mais bref. Et ils ont utilisé les dépliants de cette étude-là, puis l'étude en soi avait été publiée, puis il y avait des résultats positifs pour ce qui est de la dépression de certains médicaments potentiellement inappropriés. Puis ils remettaient aussi le dépliant, comment passer une bonne nuit de sommeil sans médication, là, qui est, je ne sais pas, l'initiateur de ce pamphlet-là, Ali, je ne sais pas si tu sais, là, mais il est disponible notamment sur le site web du réseau de déprescription canadien. Mm.
Je pense que c'était eux les initiateurs à la base.
Puis finalement, troisième groupe, ben, traitement usuel. Fait que je répète, là, la seule intervention qu'on a faite dans l'étude, c'est envoyer ces affaires-là. Bon, c'est sûr, il faut quand même être transparent. Les gens avaient été contactés pour savoir s'ils étaient ouverts à entrer dans l'étude. Mais il n'y avait pas d'intervention là, de la part d'un pharmacien, d'un médecin ou je ne sais quoi pour faire avancer les patients là-dedans. Évidemment, une fois que les patients recevaient des dépliants, ben là, eux pouvaient consulter le professionnel de santé qui leur tentait, puis en jaser, puis voir comment ils pouvaient être aidés pour se débarrasser de leur médication. Mais bref, au final, 6 mois plus tard, 26% des patients avaient cessé leur benzodiazépine dans le groupe ayant reçu l'information de sleepwell.ca, 20% dans le groupe ayant reçu celle d'Empower et 8% seulement dans le groupe traitement usuel. Quand on regardait les gens qui avaient diminué d'au moins 25% leur dose de benzo, on était à presque 50% dans le premier groupe, 35% dans le deuxième groupe et 20% dans le troisième groupe. Fait que c'est quand même un NNT genre à 6 pour cesser une benzodiazépine avec un envoi postal.
Oh, on donne juste une brochure. Là.
C'est quand même cool.
C'est quand même très hot, là.
C'est ça que je trouve fascinant, c'est que je pense que j'ai même pas ces taux de succès-là dans mon bureau en faisant des interventions personnalisées. Là.
Je veux dire... je répète, là, quand même, il faut le dire, là, les patients ont accepté d'entrer dans l'étude, puis on imagine que ça a donc filtré quand même la population, mais quand même, Fait que moi, je trouve ça cool parce que ça nous montre, tu sais, je sais pas, là, mettons, dans les cliniques, dans les pharmacies, souvent, il y a des présentoirs là, avec un paquet de dépliants. Puis j'avoue que je me dis tout le temps un peu, y a-tu vraiment quelqu'un quelque part qui utilise ça? Puis ça sert-tu à quelque chose? Mais probablement que ça pourrait valoir la peine qu'on soit un peu plus proactif sur la remise de certains de ces dépliants-là, notamment comme dans ces exemples-ci, là. C'est quand même très hot, là.
Très beau taux de succès.
Donc, grand cru ici, très fort, à l'étude canadienne Yans. En plus, bon, le nom de l'étude est très fort aussi, donc quand même. Excellent. Prochaine catégorie. Isa, est-ce que c'est donc officiellement le dernier prix grand cru Piquette que tu remets?
Oui, c'est effectivement le dernier que je remets. Et on est dans la catégorie mieux-être.
Ah, c'est bon, ça te va bien, ça.
Vous savez, l'année 2025 a été dure, entre autres pour les médecins de famille qui viennent de passer à travers une année franchement difficile. Puis au moment d'enregistrer, on ne connaît même pas le dénouement, mais je peux vous dire que mes collègues ont vécu un mélange de stress, de colère, de tristesse et même de détresse dans la dernière année. Ça a été des moments assez difficiles. On espère que 2026 sera meilleur et on peut se demander comment on peut aider à atténuer justement chez les professionnels qui vivent des moments difficiles les risques de burn-out ou d'épuisement professionnel. Donc, il y a une étude qui s'est intéressée à ce sujet-là qui est parue en novembre 2025 dans Annals of Internal Medicine, une étude de George Collette et ses collaborateurs qui s'intéresse justement sur quelles sont les stratégies qui sont efficaces pour réduire les risques d'épuisement professionnel, burn-out, chez les professionnels de la santé. Il s'agit d'une revue systématique et d'une méta-analyse qui regroupe 99 essais randomisés contrôlés pour un total de 9330 participants.
Mais quand même, attends une minute, là. 99 essais randomisés contrôlés sur des interventions qui diminuent potentiellement le risque d'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé?
Oui, puis presque, tu sais, plus que 9000 participants quand même, là.
Si, pépé.
C'est beaucoup de monde.
Hey, c'est presque autant que d'études sur la vitamine D en 2025.
Donc oui, ils ont regardé plusieurs études, puis près de la moitié incluait des interventions basées sur la pleine conscience, là, qui est probablement la technique qu'on entend parler le plus dans les dernières années. Mais les 52 autres études intégraient toutes sortes de stratégies, là, que ça va de la gestion du stress, d'un training relié à l'emploi, des groupes balint ou de debriefing, le coaching professionnel, des psychothérapies, des interventions pharmaco-nutritionnelles, des messages de motivation, de gratitude, des thérapies alternatives là, comme écouter de la musique, faire des arts créatifs, respirer des huiles essentielles, faire de la chromothérapie.
De la quoi?
De la chromothérapie. Je suis allée googler c'était quoi, là? Ça a rapport avec les ondes des couleurs, là. Je ne suis pas allée beaucoup plus loin que ça.
Les couleurs ont des ondes?
Des ondes? Ouais, ben, des ondes?
OK, j'ai compris les ondes.
Oui, je me disais, les ondes.
C'est... Oui, oui, c'est les ondes, comme dans les longueurs d'onde, là, tu sais, les différentes couleurs, là, ils ont pas la même longueur d'onde. Puis ça équilibre le corps et l'esprit, là.
OK. Ouais. Ouais.
Je vous dis pas nécessairement de faire ça, là, c'est juste, ça fait partie des multiples stratégies qui ont été étudiées. Pas beaucoup qui se sont intéressés à l'activité physique, quand même étrange, là. Mais bon, ça faisait pas partie probablement de ce qui ciblait. Il y avait juste une seule étude qui s'intéressait au yoga puis qui a inclus un troisième bras qui parlait d'activité physique. Donc, comme vous pouvez vous douter, là, on parle d'études là, qui varient grandement d'une à l'autre. Hein. C'est pas un domaine d'études là, où c'est clair comme de l'eau de roche. Là. Fait que ça va de l'intervention unique qui durait 4h30 à une intervention sur une plus longue durée qui durait 10 mois. Mais la plupart avaient des interventions qui duraient plus de 4 semaines. Ils ont utilisé, dans ces 99 études-là, des questionnaires qui étaient variables d'une étude à l'autre, mais ils étaient tous intéressés à chercher les signes principaux de burn-out qui se développent en trois catégories. On veut savoir l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation qu'on peut expliquer par le négativisme ou du cynisme par rapport à nous-mêmes, par rapport rapport à nos patients, par rapport à nos collègues, probablement même à notre profession puis au système de santé au complet. Et on veut évaluer aussi le sentiment d'accomplissement dans ces questionnaires-là. Donc, comme je vous dis, ils sont différents d'une étude à l'autre, mais ils s'intéressaient tous à ces trois éléments-là. Fait qu'on va regarder les résultats un petit peu. Si on regarde les résultats du côté des médecins, tout ce qui a trait à la pleine conscience, là, grosso modo, ça marche pas vraiment. Ce qui a marché un peu chez les médecins, c'est le coaching professionnel. Ça semble fonctionner un peu pour réduire l'épuisement émotionnel, possiblement pour réduire le niveau de dépersonnalisation, puis ça pourrait augmenter très légèrement le sentiment d'accomplissement au travail, mais là, on est avec un chiffre un petit peu plus bas, là.
Fait que, okay.
C'est un peu décevant quand même, là, parce qu'on met beaucoup souvent d'énergie puis d'argent dans ces programmes-là. Chez les médecins, le coaching professionnel, on peut retenir que c'est probablement ce qui a le plus d'effet. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la différence, parce que chez les infirmières et les sages-femmes, la pleine conscience avait des effets plus intéressants. Il y a un constat là, qui est similaire chez les autres professionnels que les infirmières et les sages-femmes, mais avec un effet un peu plus modeste. Ça pourrait aussi augmenter, on parle toujours de pleine conscience, là, le sentiment d'accomplissement, mais avec un niveau d'évidence qui est très bas. Et puis, sinon, l'autre chose qu'ils avaient trouvé, c'était l'entraînement relié à l'emploi, le coaching. C'était pas vraiment un coaching, là. On parlait vraiment d'un training, là, comme une amélioration des compétences à l'emploi. Il y avait une évidence modérée que ça pourrait augmenter un peu le sentiment d'accomplissement, ce qui est quand même rassurant, mais c'est un effet très modeste.
Pas très encourageant, tout ça.
Oui. Non.
On n'a clairement pas trouvé la solution miracle, là, ici, là.
Vraiment pas. Je pense que ça peut être ça la conclusion, là, c'est que ça fonctionne pas chez tout le monde. Puis probablement que de prendre la même intervention à tout le monde en essayant de la forcer, c'est pas la bonne solution. Mais quand même une étude intéressante qui ont fait un bon travail avec le type d'études qui sont disponibles.
Un gros travail, mon Dieu.
Oui, c'est difficile de faire des conclusions quand les études sont aussi hétérogènes, mais sont arrivées quand même avec des résultats intéressants. La pleine conscience est clairement la méthode la plus étudiée pour laquelle on a le plus de données. On garde en tête là, quand même le haut risque de biais parce que les études ne sont pas à l'aveugle. Mais sinon, en gros, pour ça, la pleine conscience, ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup chez les médecins, mais ça peut avoir des effets positifs chez d'autres professionnels. Puis pour les médecins, comme on disait, ce qui montre des résultats les plus intéressants, même s'ils sont modestes, c'est le coaching professionnel.
Ben, bonne chance!
Fait comme je disais au début, on souhaite une année 2026 un petit peu plus reposante parce que les solutions, on voit qu'elles ne sont pas si grandes que ça.
Bon. Prochaine catégorie. Catégorie qui revient pour... c'est pas la première fois, clairement. La catégorie techno. Grand cru cette année dans la catégorie techno. Je pense qu'il était un peu évident. On peut pas passer à côté. L'intelligence artificielle.
Ouais, ça a comme explosé. Hein?
Je veux dire, je pense que là, c'est rendu un... On peut plus en passer déjà, là, j'ai l'impression.
Ben non, mais même que tantôt, avant qu'on enregistre, je me faisais juger parce que je ne l'utilisais pas pour mon travail à remettre demain.
C'est quand même incroyable ce que l'intelligence artificielle est en train de nous offrir dans différents aspects de notre vie professionnelle. On peut penser évidemment aux rédactions de notes. C'est quand même très, 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 très efficace comme concept. Mais même dans une visée thérapeutique, on a des données maintenant, hein? Donc il y en a plusieurs, là, mais mettons pour le prix, je le décerne à un essai randomisé contrôlé dans lequel on a évalué l'efficacité de l'utilisation d'un agent conversationnel sur les symptômes anxieux et dépressifs de gens qui présentaient là, des symptômes de différentes psychopathologies. Bref, d'utiliser l'IA comme un thérapeute.
Quand même
une étude qui a fait les choses minimalement dans les règles de l'art. Donc, 210 participants. Là, soyons très transparents. L'étude vient avec un paquet de problèmes aussi. Là, fait que c'était pas des gens avec des diagnostics bien posés de troubles de santé mentale. C'était des gens qui avaient des symptômes rapportés de dépression, d'anxiété. Il y avait aussi des trucs liés à des troubles alimentaires. Puis bref, on les a randomisés à traitement usuel, c'est-à-dire à rien, ou l'utilisation d'un agent conversationnel. Fait que l'agent conversationnel aussi, faut se comprendre, c'était pas utiliser genre ChatGPT ou un autre de ces trucs disponibles en ligne. C'était un programme qu'utilise, oui, l'intelligence artificielle, mais qui était paramétré là, pour faire sa job de thérapeute, si on veut. En passant, dans l'étude, il y avait aussi des vrais thérapeutes là, qui surveillaient, qui passaient par-dessus les affaires pour être sûr que personne n'était en danger. Mais au final, bref, ils ont testé ça pendant 8 semaines. Et dans le groupe ayant utilisé l'agent conversationnel, ben oui, il y a eu une amélioration plus importante des symptômes en utilisant différents questionnaires. Là. Fait que, mettons, pour les symptômes dépressifs, ils ont utilisé le PHQ-9. Puis il y a une diminution de 8 points dans le groupe utilisant l'agent conversationnel contre une diminution de 4 points dans le groupe contrôle. Puis tous les différents scores allaient un peu dans cette direction-là. Fait qu'officiellement, ça a marché par rapport à rien. Puis, j'entends souvent que, bon, ça crée de l'inconfort chez un paquet de personnes. On me dit, ben, ça ne peut pas remplacer un thérapeute, un être humain. Puis je comprends, là, clairement, là, tous les questionnements. Mais on le sait qu'au Québec, en 2025, l'accès à de la thérapie avec un être humain compétent, c'est pas toujours évident. Là. Fait que, je suis pas en train de dire que c'est fantastique puis qu'on devrait mettre ça de l'avant beaucoup, beaucoup, mais clairement, il y a quelque chose qui mérite à être exploré, j'imagine. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bien, moi, je suis assez d'accord. Là. T'sais, honnêtement, pour le voir au quotidien, on s'entend, là, les patients ils n'ont pas forcément accès, s'il y a des longues listes d'attente. Ils n'ont pas nécessairement d'assurance. Donc, tu sais, je suis pas sûre que le but, c'est que ça remplace nécessairement de la psychothérapie formelle, mais tu sais, moi, je vois ça un peu comme un bon... en tout cas, une avenue intéressante pour les patients dont l'accès est plus limité là, pour de la thérapie. Là. Je trouve ça... En tout cas, je trouve ça rassurant. Ben, je sais pas si c'est rassurant, en fait.
Je sais pas ce que ça dit sur l'humanité, là.
Non, c'est ça.
Mais bon...
Je veux dire, si c'est un outil qui est disponible, qui a un certain bénéfice pour les patients qui n'ont pas accès à un psychothérapeute, je veux dire, c'est quand même mieux que de rien faire là, de ce qu'on voit dans ton étude, Nico. Là, donc.
Puis je le répète, là, c'est pas dire à un patient d'aller jouer sur un des différents agents conversationnels disponibles en ligne, là, connus. Là. C'est un truc paramétré exprès pour ça.
Mm-hmm.
À suivre. Mais au-delà de cette étude-là, clairement, l'intelligence artificielle était la seule candidate dans la catégorie techno cette année. Chapeau pour ton grand cru, l'intelligence artificielle. Prochaine catégorie, Amé, autant Isa a remis son dernier prix. C'est le temps pour toi de remettre ton premier. Si j'ai bien compris, tu as choisi la catégorie nostalgie.
Exactement. Écoute, je me suis dit, pour un premier grand cru épiquette, je me lance d'un article dans le BMJ de Noël 2025.
Ah, ben oui, un classique.
Exact. Une étude rétrospective qui s'appelle « How recent is recent? Retrospective analysis of suspiciously timeless citations ». Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une recherche d'études dans PubMed avec une vingtaine de termes là, qui incluaient le mot « récent ». Donc, « recent study »,« recent data »,« recent publication »,« recent article », etc. Et ils ont choisi 1000 articles en anglais qui avaient la meilleure correspondance de recherche avec ces termes-là. Et il fallait que le terme « récent » soit associé directement à une référence dans leur bibliographie. Là, vous me direz, okay. Pourquoi 1000? Rien à voir avec une quelconque puissance statistique, juste parce qu'ils trouvaient que c'était un beau chiffron puis que c'était bien le fun d'arrêter à 1000.
Ben, à un moment donné, je comprends. Là, faut t'arrêter quelque part puis tu vises quand même juste le BMJ de Noël, fait que, hein?
C'est une bonne justification.
Ben, oui. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu déterminer? Ils ont voulu déterminer l'intervalle de temps entre la publication de l'étude et la référence récente qui était citée. Donc, ils ont regardé première fois que le mot récent apparaissait dans le texte. Puis, ils ont été regardés la référence qui était associée à ça, à date et de quand. Eh bien, croyez-le ou non, on avait un écart là, de résultats qui se chiffrait entre 0 année et 37 ans.
37 ans?
Oui,
pour le mot quelqu'un récent. Qui a écrit des données récentes, puis la référence de ça, ça avait été publié 37 ans plus tôt?
T'as tout compris.
Bien, on dirait que j'aime ça.
C'était sur une base historique, là, tu sais, par rapport à l'ère des dinosaures. Là.
J'aime ça.
37 ans, c'est récent, mais...
Ben, tout est une question tout est relatif dans la vie, effectivement, là, si on se base entre l'ère des dinosaures. Mais bon, ça reste quand même dans des publications scientifiques où on utilisait le terme récent pour parler de quelque chose qui datait de 37 ans. C'est quand même merveilleux. Mais blague à part, dans leurs résultats, on avait une moyenne là, de 5,5 ans avec une médiane à 4 ans.
Une moyenne de 5 ans puis une médiane de 4 ans pour un truc récent?
Oui.
Ben voyons donc. Ben, c'est pas si pire que ça, là. Non, 5 ans, c'est quand même récent. Ben, une étude qui est parue il y a 5 ans, c'est quand même pas si vieux que ça, là. 5 ans, t'étais philosophe. Ouais. Non, j'étudiais en pharmacie.
Moi, je trouve que c'est une belle démonstration, tu sais, quand on dit quelque chose est grave, ou tu sais, quand les mots imprécis, là, on a une belle... Une belle démonstration ici. T'sais, récent, Nico, il est comme quoi? 5 ans, Oli, il est comme, ben, c'est pas si pire, 5 ans. C'est la même chose que nos patients comprennent quand on dit que ça arrive rarement ou très souvent ou souvent.
Beau parallèle, Lisa.
Absolument, absolument. Tous ces termes qualitatifs qui ne veulent rien dire pour personne.
Mais exactement. Donc, je continue dans les résultats. Il y avait 17,7% des études qui utilisaient le mot récent pour parler de publications qui dataient quand même d'il y avait plus que 10 ans. Ils ont analysé aussi les termes. Donc, les termes approche récente, découverte récente et étude récente étaient typiquement associés à des écarts qui étaient plus grands que les termes publication récente ou article récent. Chose intéressante et rassurante, je vous dirais, dans les journaux avec un facteur d'impact qui était plus élevé, donc avec un facteur d'impact au-dessus de 12, les mots récents étaient généralement associés à des publications qui étaient plus à jour.
Du BMJ de Noël à son meilleur.
Écoute. Après ça, ils ont fait un tri aussi par spécialité. Donc, ils ont regardé c'est dans quelle spécialité qu'on utilise le mot récent à juste titre. Et ce qui est ressorti, c'était plus dans les soins critiques, la microbiologie, l'immunologie, la radiologie et la génétique. Là, on avait des écarts là, beaucoup plus courts. Alors qu'en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en néphrologie, eux, on étirait plus l'élastique là, avec des écarts qui variaient entre 8,5 et 14 ans. Donc voilà, en fait, le but de cette étude-là, c'était surtout une prise de conscience à l'effet que le mot récent était souvent utilisé à toutes les sauces et que ça soulevait l'idée que si vous voyez le mot récent utilisé dans un texte, ben, ça vaut peut-être la peine de valider à quel point récent veut réellement dire récent.
Très voilà. Fort, très fort.
Bon choix d'article.
Très récent.
Ah, ces gens qui trouvent le temps de faire ça, ça impressionne toujours. Prochaine catégorie, une grande classique, la catégorie alimentaire. Alors, on avait, bon, comme candidate, mais qui n'a pas gagné, la fameuse étude de patates dont on a parlé déjà il y a quelques temps. Tiens de ça, Isa?
Ah oui!
Cette grosse...
Est-ce que c'était la méta-analyse de patates, ça, qui avait fait le BMJ ou je me trompe?
Exact! Puis pas le BMJ de Noël, là, quand même, il faut le repréciser. Là. On parle du BMJ standard ici. Donc, cette grosse étude là, qui avait inclus au final des millions d'années patients, puis qui avait suggéré que la consommation, à chaque fois que tu mangeais 3 portions de patates supplémentaires par semaine, tu augmentais ton risque de développer un diabète. Mais au final, dans les analyses là, de sous-groupes, finalement, de patates, ben, ce risque-là semblait être complètement expliqué par la fameuse patate frite, ici. Alors que la patate
décevant.
Bouillie, la patate rôtie, la patate pilée là, semblait s'en sortir indemne. C'était quand même bon, mais non, c'est pas eux qui ont gagné cette année. C'est plutôt la caféine, Oli.
Ouais, donc on va parler de l'étude d'ICAF. Puis honnêtement, il aurait quand même pu avoir une mention dans une catégorie meilleur titre d'étude. Là. DECAF, c'est un acronyme pour le titre Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?
Ouais, j'avoue.
Wow.
J'avoue très fort.
C'est cool. Ouais.
Le titre, il dit tout en fait. L'étude DECAF, c'est une étude randomisée contrôlée de 200 patients adultes avec une fibrillation auriculaire persistante, une cardioversion électrique planifiée et une consommation de café d'au moins une tasse par jour. Les patients étaient randomisés à partir de leur cardioversion à une consommation de café d'au moins une tasse par jour, puis à poursuivre leur consommation usuelle d'autres produits qui contenaient de la caféine, ou encore ils étaient randomisés à s'abstenir de consommer du café. incluant ici du café décaféiné. Ça, je suis pas sûr de trop comprendre ce critère-là. Ou tout autre produit contenant de la caféine.
Attends, il n'y avait pas le droit de boire du décaf dans l'étude décaf?
Ben, honnêtement, c'est ce que j'ai lu dans l'article.
Ah, c'est choquant.
Ben voilà.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné le prix. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné le prix du meilleur nom d'étude, là.
Aïe, aïe, aïe. Puis, en termes de résultats, c'est pas allé du bord espéré. De façon surprenante, la consommation de caféine semblait mener à moins de récurrence de fibrillation auriculaire, avec 47% contre 64% dans le groupe abstinent à la caféine, ce qui donnerait un NNT de 6 en faveur de la poursuite de la consommation de café.
Ça va bien.
C'était comme le contraire de leur hypothèse, j'imagine.
Ben, tu sais, en général, on pense que le café aurait peut-être des propriétés arythmogènes.
Arythmiques, oui.
Ouais. Fait que, puis là, l'idée ici, c'est qu'en enlevant le café, les patients vont avoir moins de récurrence de FA, mais en fait, quand ils arrêtent le café, ces patients-là, ils semblent avoir plus de récurrence.
Fait que là, morale de l'histoire, maintenant, on recommande du café chez les gens FA?
Ben c'est ça, on dirait que je relisais l'étude tantôt, puis je savais pas trop quoi conclure de tout ça. C'est clair, premièrement, qu'on va pas se mettre à recommander du café à tout le monde tu sais, qui a de la FA et qui ne consomme pas déjà du café. Par contre, chez les gens qui en consomment déjà, qui vont bien, qui ont pas d'épisode de FA exacerbé, de palpitations avec la caféine, je veux dire, c'est quand même plutôt rassurant pour ces patients-là qui veulent continuer à boire du café. Mais je pense que la majorité des patients avec un diagnostic de FA n'arrêtaient pas du jour au lendemain de boire de la caféine de toute façon.
On se rappelle, là, on est dans l'épisode festif quand même. Là. Mais c'est fou, hein, parce qu'ils ont quand même fait le JAMA avec ce papier-là.
Ils ont fait le JAMA, puis pas un des journaux affiliés au JAMA. Ils ont fait le JAMA.
Puis il n'y a pas de JAMA de Noël, là.
Non, il n'y a pas de JAMA de Noël.
Aïe, aïe, aïe. Excellent, mais... excellent. Alors, avant-dernière catégorie, une nouvelle catégorie cette année, je crois. La catégorie, on n'avait pas besoin d'une étude pour ça.
Oh non.
Mais c'est quand même cool. Il y a des gens qui ont fait une étude randomisée contrôlée pour évaluer l'effet de l'alcool sur la capacité à parler une autre langue.
Oh, c'est cool, si ça. Beau. Ça, on est meilleur, hein?
Ben, ils ont pris 50 Allemands dans ce cas-ci qui avaient appris récemment le hollandais, puis ils ont randomisé à un breuvage alcoolisé ou un breuvage sans alcool, puis ils ont fait jaser. Et effectivement, leur prononciation a été évaluée comme meilleure lorsqu'ils avaient bu de l'alcool. Mais ça, en même temps, c'est pas pour rien que ça a gagné la catégorie, on n'avait pas besoin d'études pour ça, là. N'importe qui a déjà consommé avec peu de modération sait très bien que, mon Dieu, ça t'ouvre les portes à l'ensemble des langues de la planète Terre, ça, là, non?
Ça confirme une loi universelle de l'humanité, je dirais.
Exact, exact. Mais quand même, une étude randomisée, contrôlée là-dessus, c'est fort, là.
Chapeau.
C'est fort.
Vraiment cool.
Et finalement, la dernière catégorie, une classique, mais un peu différente cette année. La catégorie hommage. Parce qu'évidemment, notre grande crue, ben c'est Isa. A été récipiendaire d'un prix Grand Cru Piquette, Isa.
Wow! Quelle sortie! Ilala.
C'est pas beau, ça?
Ouais.
Fait que... je sais pas, genre, on a pas préparé vraiment là, rien, là. Mais je serais curieux, puis là, je sais pas si t'as des réponses qui vont te venir, mais... quand tu regardes, c'est mine de rien. C'est quoi? On a dit c'est 8 dernières années, c'est ça? Un peu plus de 8 ans?
Ben, j'ai commencé...
Automne 2017, c'est ça?
Ouais, 8 ans. Ouais, 8 ans.
Quand on regarde ces 8 dernières années, tu sais pas comment te... Les gens, premièrement, savent pas comment ça a commencé, là. Fait que si ma mémoire est bonne... T'avais entendu dire qu'on voulait partir un podcast, puis là, tu t'es mis vraiment à comme m'achaler pour en faire partie, hein, c'est ça?
Ah, oh, c'est tellement pas ça, là! Aïe, aïe, aïe! Hey, mais puis je revenais de maternité, comme, je n'étais même pas revenue. Puis là, tu m'avais comme dit, hey, tu veux-tu être sur notre comité scientifique? Tu sais, on va être accrédité, puis ça prendrait un médecin de famille. Puis là, j'étais comme, ouais, je peux t'aider à faire ça. Mais oui, j'en ai fait des comités scientifiques. Tu sais, je connais ça, les études de besoin, puis tout. Quand je peux t'aider à faire ça. Puis là, tu dis, ouais, tu pourrais peut-être venir comme une fois ou deux, là, faire un enregistrement. Puis là, je suis comme, oh, non, je pense pas. Puis là, finalement, ben, c'est ça. Je sais pas trop comment, là, je sais pas comment ça, je me suis retrouvée là. Je comprends pas, c'est où, à un moment donné, tu sais, ma difficulté à dire non dans la vie, ben, c'est un exemple extrême, là, parce que j'aurais jamais consciemment embarqué dans une aventure comme ça qui allait durer 8 ans. Jamais j'aurais fait ça. Mais avec le recul, je te dis merci, Nico, de m'avoir pris au piège en 2017. Puis d'avoir été un mentor aussi pendant tout ce temps-là, parce que je le dis à tout le monde qui veut encore m'écouter, mais tu es vraiment la personne que je connais qui a le cerveau le plus bizarre et exceptionnel. C'est vraiment chiant pour tout le monde qui travaille avec toi parce qu'on se sent poche, mais en même temps, on apprend beaucoup en travaillant avec toi. Puis merci pour ça, puis pour le Pharmascope, mais pour le travail clinique qu'on a fait ensemble aussi depuis 2013.
Ouais, 2013.
Ouf, puis c'est ça, tu sais, j'ai tellement aimé le côté humoristique, puis taquinerie, puis le plaisir qu'on avait à travailler ensemble, puis avec Oli qui s'est joint à nous l'année passée, ou il y a 2 ans, l'année passée. Hein?
L'année passée.
Mm-hmm. L'année passée, mais on travaillait déjà ensemble au GMFU, fait que c'est pas comme si c'était un nouveau partenariat, là. Voilà, fait que c'était plein de bonheur. Des fois, je trouvais pas ça si le fun que ça, parce que moi, à l'habitude, à passer 10 heures, je dors. Puis là, ben, ça arrivait qu'on enregistrait. Puis,
comme là, mettons, il est passé 10 heures. Les gens ne le savent pas, là, mais on a dépassé ton heure de dos. Là. Ça, c'est toujours dangereux.
Oui, c'est une petite anecdote là, qu'on peut raconter. C'est la fois qu'on avait fait les épisodes sur la dyslipidémie.
Fait que des fois, quand on fait des séries sur un sujet, on enregistre plusieurs épisodes d'un coup. Tu sais, c'est pratique. Puis ouais. On avait fait la série Dyslipidémie, là, mon Dieu, très, 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 c'était avant la pandémie, là, fait que ça fait longtemps. Puis on avait fait ça de soir, puis c'est 3 épisodes, probablement, cette série-là. Puis,
ben, je savais pas si. Le troisième, là, je cognais des clous, là.
Ouais, puis quand on dit cogner des clous.
J'ai manqué des bouts, là.
Cogner des clous, des bons clous, là.
J'ai vraiment dormi dans cet épisode, c'est fou.
Aïe, 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 aïe. C'est quand même fou là, ce que ça nous a fait vivre, le Pharmascope. Là, je me souviens à quel point on fantasmait à l'idée. Là. Surtout, Seb avait des idées de grandeur là, initialement. Là, puis il était comme, hey, mettons qu'on a 100 abonnés. Là. Puis bon, évidemment, on a dépassé ça depuis très, très, très longtemps. Mais c'est incroyable. Puis même ça, au jour le jour, là, on s'en est raconté des tonnes, là, des anecdotes bien niaiseuses. Mais tu sais, des affaires, genre tu recevais une opinion d'un un fax d'un pharmacien communautaire. Puis là, à la fin du fax, ça disait genre... En passant, je suis un gros fan du Pharmascope.
Oui, ça m'est déjà arrivé qu'un pharmacien me reconnaisse. J'avais même pas dit mon nom. Puis il m'a dit, « Oh, j'écoute votre podcast. » Je trouvais ça super drôle. Puis on a eu des super occasions aussi. On est allés, Nico et moi, à Paris pour parler de collaboration médecin-pharmacien. C'est là, puis on a fait des conférences ensemble. Puis, ouais.
C'est là qu'on raconte le fameux moment où on s'est ramassé à 4 heures du matin, les deux, sur une trottinette podcast. Puis t'avais du fun.
J'ai vraiment eu peur de mourir ou de me retrouver hospitalisée. Puis là, je me voyais appeler mes parents puis leur dire que j'étais hospitalisée à Paris parce que j'avais fait de la trottinette en pleine nuit à deux sur une trottinette pour une seule personne. J'étais comme non, faut pas que ça arrive.
Mais je pense, je trouve, moi j'ai vraiment un bon souvenir de cette image-là, là, d'une deux sur la trottinette à 4 heures du matin parce que je trouve que c'est une image qui décrit bien notre dynamique.
Toi qui es comme, ouais, gaz à fond, puis moi qui es comme, non, qu'est-ce qu'on fait ici?
on s'est bien complété, je pense, au fil de ces années. Des moments forts aussi là, que tu nous as fait vivre, là, ton journalisme d'enquête, évidemment.
Oui, ça, on revient souvent là-dessus, là, ouais.
Ben, c'est parce qu'on a essayé de réanimer cette journaliste
ben oui,
d'enquête à plusieurs reprises, là.
Moi, je vais passer le flambeau à Amé pour ça. Amé, le journaliste d'enquête, tu devrais te mettre là-dessus, là. Ça améliore la qualité des épisodes, puis tu vas t'imprégner encore mieux, là, du sujet.
On s'est quand même ramassé à faire des enregistrements de Pharmascope à Jonquière. Hein? C'est du tourisme exotique, ça aussi?
Ah oui, j'essayais de me rappeler, mais oui, c'est celui qu'on a fait devant public. On en a fait juste un devant public. Oui.
Ben oui. Puis encore une fois, hein, tu vois les images qui sortent de ça.
Oh oui, la tempête de neige.
Je me souviens très bien du retour dans la tempête de neige à traverser le parc avec un peu comme la trottinette, je dirais, hein, moi qui conduis. Puis je me souviens encore un moment où littéralement, on est dans l'auto, puis j'ai dû demander à Isa, est-ce que tu es à l'aise avec le fait que je dépasse le véhicule devant nous?
C'est vrai! C'est vrai! Puis il y avait plein de gros camions poids lourds sortis de route. Là. À chaque fois qu'on dépassait, j'étais comme, oh non, on va mourir ici. On voit que j'ai un petit côté anxieux. Là. Puis les tempêtes de neige en auto, j'aime pas ça.
Mais merci, Isa. Merci pour toutes ces années. Cet effort, là, parce que bon, je sais pas pour les gens qui écoutent, mais tu sais, c'est beaucoup de temps, mine de rien, là, faire le Pharmascope. C'est beaucoup de travail. C'est souvent du temps, comme tu dis, du travail à des heures qui n'ont pas rapport. Je te lève mon chapeau. Écoute, j'ai envie de te dire 7 étoiles.
Wow! Ça, je pense que tu n'as jamais donné 7 étoiles, fait que ça me touche beaucoup.
Très gros score, là.
Bon. Là, je vais pleurer, fait qu'en terminant, petit message habituel, c'est des questions, des commentaires, des plaintes, des critiques, vous écrivez à Oli. Sinon, ben, on s'en parle en 2026?
Ben, pas moi, là, mais les autres. Moi, je vais vous écouter en 2026. Bye-bye.
Bonne année.
Bye.
Ciao, là.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.